Bonjour à toutes et à tous. Merci à la DGESCO pour cette invitation à participer à votre réflexion. Alors effectivement, c'est un plaisir pour moi, bien entendu, de revenir parmi mes pairs, puisque bien vous êtes nombreux ici dans la salle à m'avoir connu ou que j'ai pu rencontrer à l'occasion du coup hein, de mon parcours dans l'éducation nationale. Alors effectivement, si aujourd'hui je vous parle en tant que directeur général des services hein, d'une collectivité, je vais aborder cette question sous l'angle plus territorial, bien entendu. Et comme c'est précisé là, en tant que vice-président de l'ANDEF, donc je suis membre de ce réseau des directeurs d'éducation des villes de France, qui sont aussi vos partenaires au quotidien sur le terrain, et avec lesquels donc je croise aussi un certain nombre de données sur ces questions-là en particulier, des collaborations ou coopérations entre TRATSEM et enseignants. Donc c'est un plaisir, bien sûr, hein, d'apporter ma modeste contribution à votre réflexion aujourd'hui, avec, vous l'avez compris, la possibilité pour moi d'aborder cette question sous l'angle de regard croisé. J'ai été moi-même instituteur, directeur d'école en école maternelle avant d'être formateur, conseiller pédagogique et inspecteur. Et en fait, à travers ces différents métiers, j'ai pu appréhender cette question des collaborations en m'y intéressant très jeune finalement, puisque j'avais initié une recherche-action avec l'INRP à l'époque, le CRESAS, pour ceux qui ont connu Olga Bottelot, dans les années 2000. Et effectivement, on se questionnait déjà sur la nécessité, comme ça a été dit tout à l'heure par l'inspection générale, de construire ces collaborations pour ne pas les subir. En fait, on avait tout simplement initié la rencontre de binômes TSEM enseignants pendant un an, à l'occasion d'une rencontre par mois. On les a filmés dans leur classe pour essayer de comprendre ce qui faisait que certains avaient dépassé un certain nombre d'obstacles pour arriver à mieux travailler ensemble, ou à travailler ensemble de manière sereine, alors que, bien entendu, à côté, on pouvait voir des binômes en difficulté, voire en souffrance professionnelle, hein, c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier aujourd'hui. Donc j'ai vraiment un plaisir tout particulier à considérer, et sans faire offense à l'éducation nationale, qu'enfin cette question-là soit traitée à ce niveau-là, hein, au niveau des cadres de l'institution, et pas de manière disparate au bon vouloir des initiatives de chacun sur les territoires. Donc en fait, vous l'avez compris, je vais aborder cette question à travers ces différentes focales, avec des regards croisés. D'autant plus que depuis 8 ans maintenant que je suis en détachement hein, dans la fonction publique territoriale, j'appréhende cette question avec un regard très différent encore du fait que, justement, j'ai moi-même à manager des services et des équipes qui accompagnent les ATSEM tout au long de la journée, et avec le lien que je peux faire avec ce que j'ai entendu tout à l'heure sur les problématiques de locaux, d'espace, d'architecture, etc., d'aménagement de classe. Et sans compter, vous le savez bien, que toutes les réformes initiées par votre ministère impactent à un moment considérablement les collectivités territoriales. Alors je passe sur la question des classes dédoublées, CPE renforcées et autres, mais tout ce qui a été la mise en œuvre de la réforme, la semaine de 4 jours et demi, puis retour à 4 jours, puis le SMA, puis etc. Et à chaque fois, on doit réinterroger les emplois du temps de nos agents et en même temps, je dirais la dynamique de formation qui doit accompagner ces mutations. De fait, donc voilà, de là où je vous parle aujourd'hui, c'est une forme de synthèse de cette expérience d'une vingtaine d'années et pour un sujet qui, vous l'avez bien compris, est toujours en mouvement. C'est-à-dire que la présentation qui vient d'être faite et qui est très importante hein, de l'évolution de la formation des ATSEM sur la question du CAP, mais aussi, vous le verrez, parce que le CNFPT, peut-être que vous n'appréhendez pas encore cette question-là suffisamment clairement, a initié des modules de formation des ATSEM de contenu, je dirais, très dynamique et de très haut niveau depuis déjà une dizaine d'années. Et sur ce que j'ai entendu dans le préalable, je vais vous éclairer sur le fait qu'effectivement, les ATSEM ont accès à des contenus de formation aujourd'hui qu'on n'imaginait pas il y a quelques décennies, au moment où on était encore dans une logique de recrutement social. Donc voilà, mon introduction très rapide pour vous dire que voilà, je vais aborder cette question-là sous cet angle-là. Alors si la souris ne marche pas, je vais utiliser le clavier. Alors, bien entendu, on ne peut pas faire l'économie d'inscrire cette réflexion, hein, comme vous l'avez déjà traité, dans cette logique des enjeux renouvelés de l'école maternelle. Enjeux renouvelés, programme de 2005, mais pas que. Hein, c'est la finalité de l'école maternelle, ses intentions, y compris, vous l'avez déjà abordé avec ce qui nous arrive sur l'enjeu de la scolarisation obligatoire à 3 ans. Et ne pas perdre de vue cette finalité, c'est forcément d'emblée déjà dire qu'on va au-delà des intérêts de revendications des uns et des autres, parfois un peu trop corporatistes. C'est-à-dire que c'est l'intention d'une obligation de travailler ensemble au service des enfants, des élèves et de leur famille. Et c'est pourquoi je redis que ce partenariat interne a été trop peu interrogé finalement dans l'histoire de nos institutions et qu'on a fait comme si ça allait de soi. Alors que ici ou là, chacun des inspecteurs ou conseillers pédagogiques qui allaient sur le terrain voyait bien ces tensions. Donc voilà, il était nécessaire vraiment qu'on prenne en compte cette dimension-là, tout particulièrement dans ce cadre d'enjeux renouvelés. Alors oui, je vais aborder cette question à travers à la fois des obstacles qu'il ne faut pas nier et qu'il va falloir tenter de dépasser justement. Et je crois que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour initier un plan de formation conséquent sur ces questions-là. Mais partir des obstacles, ça éclaire aussi sur les espèces de formes de représentation qu'il va falloir dépasser en formation. Et puis des leviers, il y en a. Je n'aurai pas le temps sur un propos aussi court de vous en proposer l'exhaustivité. Je vais en cibler 5 qui me paraissent essentiels et incontournables, qu'on pourra donc partager et mutualiser et qui ont déjà été éprouvés comme étant des leviers d'efficience. Alors très clairement, je vais aller très vite là-dessus. Vous avez évoqué avec l'inspection générale l'histoire de la femme de service jusqu'à la TSEM, comme on l'a joliment appelé à une époque, on parlait de la dame de corps, parce qu'effectivement, hein, la TSEM de l'école Jules Ferry, c'était un agent nettoyant, uniquement. Elle était là au service du corps de l'enfant et des espaces. Vous l'avez compris, les deux rapports consécutifs, d'abord celui du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui avait identifié 32 propositions pour améliorer les conditions de travail des ATSEM et le partenariat avec le monde enseignant, puis le rapport de l'IGN et GANR donc de 2017, ont bien entendu été consécutifs à la réforme des rythmes scolaires de 2012. C'est ça qui a déclenché cette prise de conscience. À un moment où les ATSEM ont dit « Stop, on ne peut plus là ». Il est normal que les maires se soient prioritairement appuyés sur leurs ressources humaines, avec des personnels qui étaient déjà embauchés, qualifiés, formés, pour pouvoir encadrer les temps d'activité périéducative dans le cadre de la réforme des rythmes. Et à ce moment-là, ça a généré à la fois, bien sûr, des tensions avec le monde enseignant, qui disait « mais on me dépossède de mon ATSEM, puisque là, elle me quitte pour aller à une réunion avec l'ensemble des animateurs pour pouvoir préparer le projet du PEDT. Là, elle quitte la classe parce qu'elle a besoin d'aller faire du comptage pour la restauration scolaire, etc. » Donc, il y a eu une forme de tension avec des revendications légitimes parfois, d'une forme d'appropriation de l'ATSEM dans les classes. Et j'ai bien compris à travers le propos de l'inspection générale tout à l'heure que plus on avance et plus on fait de ce métier un indispensable en présence des enseignants au quotidien à 100% dans la classe. Et c'est là où je voudrais vous mettre en alerte. C'est-à-dire qu'à un moment, ça ne sera pas tenable. Moi, je dis souvent aujourd'hui, les enseignants doivent faire le deuil de l'ATSEM à temps plein sur le temps scolaire. Ce n'est pas envisageable, tout simplement. De fait, et je passe les contextes de certaines collectivités qui n'ont pas un ATSEM par classe, et vous savez que c'est lié aux moyens, tout ça. Donc de fait, il va falloir qu'on s'interroge ensemble sur à quel moment c'est pertinent et nécessaire et comment on accepte de laisser partir l'ATSEM sans qu'elle culpabilise de laisser l'enseignante seule parce qu'elle a d'autres missions à assurer et je vais un peu approfondir cette dimension-là. Donc métier très complexe. Bon, le nouveau décret de mars 2018 a reposé un certain nombre de cadres que Mme Carotti a présentés. Et moi, je vais vous alerter sur quelques éléments de ce cadrage aussi. Et vous l'avez compris, donc on passe de l'agent nettoyant à l'agent nettoyant et éducant. Et c'est là une révolution culturelle. Et c'est là où on sort du recrutement social d'après-guerre. Et que vous savez comme moi qu'aujourd'hui, sur le terrain, on a des ATSEM, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4. Ce n'est pas du tout les mêmes profils. Ce qui peut générer aussi des confusions avec certaines qui se disent « mais je suis autant à même que l'enseignant, moi, de faire ce qu'elle propose là ». Et ces confusions, il faut les cadrer. Elles ne sont pas acceptables. C'est-à-dire la clarification des rôles, des métiers. Je vais un peu développer cette question-là. Donc, question forte, hein, qui nous amène à voilà, à interroger justement des obstacles et des leviers. Donc la hiérarchie bicéphale, on l'a évoqué, effectivement, la double autorité, le maire, le directeur d'école, je ne vais pas trop développer, simplement dire que la direction fonctionnelle assurée par les directrices et directeurs d'école, elle mérite aussi d'être clarifiée et interrogée. C'est-à-dire que moi je dis souvent, le directeur, il organise la présence des personnels auprès des enseignants, qu'il y en ait un par classe ou un de moins que de classe ou deux pour six classes, peu importe, y compris quand elles sont absentes et pas remplacées. C'est-à-dire que cette définition de l'accord des moyens à un projet d'école, ce n'est pas la prérogative de la ville. Et quand des parents d'élèves mettent pression sur un maire pour dire « c'est inadmissible, monsieur le maire », la deuxième de petite section n'est pas remplacée. Et l'enseignante, elle est toute seule dans sa classe avec les 32 élèves de petite section. Mais il faut qu'on assume ça ensemble. Ce n'est pas le problème de la ville, c'est le problème du directeur. En aucun cas, le maire n'a affecté l'ADSEM à la petite section. Vous avez le choix d'accompagner la mise à disposition des moyens, mais au regard du projet. S'il est plus pertinent que l'ADSEM des grands ce jour-là soit avec les petits, eh bien faites, dans tact. Et pourquoi pas imaginer, je l'ai déjà dit dans bien des conférences que j'animais sur le sujet, pourquoi pas imaginer qu'à la rentrée scolaire, puisqu'on accueille les tout-petits pour la première fois, l'équipe choisisse de mettre deux ADSEM dans la classe des petits et pas d'ADSEM dans la classe des grands. Parce qu'on est mieux à trois adultes, et quand on parle de bienveillance et d'accompagnement, pour accompagner les tout-petits primo-arrivants, que pour accompagner des enfants de grande section qui ont déjà été scolarisés depuis 3 ans. C'est votre choix. Et bien entendu, ça pose question aujourd'hui. Il y a une forme d'appropriation. C'est mon ADSEM dans ma classe, etc. Et comment on en sort ? C'est un des leviers que j'interroge déjà sur cette question de la co-tutelle et de la hiérarchie bicéphale. Alors c'est une bizarrerie hein, d'avoir à la fois possibilité d'être avec deux employeurs ou deux directions sur le même moment. Mais cette bizarrerie, on dit souvent à l'ENDEV, c'est une opportunité pour nous rencontrer ensemble. C'est une opportunité pour que les enseignants rencontrent les collectivités, pour que les inspecteurs rencontrent les directeurs de l'éducation et qu'on y travaille ensemble. C'est-à-dire on a une obligation de faire hein, du fait de cette bizarrerie. Et quand on interroge en plus les questions des responsabilités, hein, tant scolaires, tant périscolaires, ces moments de transition, on a des vrais enjeux de travail en commun. Alors j'avance pour pouvoir effectivement mettre la focale sur quelques éléments. Je vous l'ai dit, hein, le temps périscolaire, pour moi, c'est une nouvelle donne qui met en danger les amplitudes horaires de travail des ADSEM. Vous savez, c'est un métier qui peut travailler sur une amplitude de 10 heures par jour, avec une pause de 20 minutes. Et il y a une forme d'épuisement. Vous savez, quand on parle au CHSCT de troubles musculo-squelettiques, de formes de burn-out, etc., les ADSEM sont en première ligne aujourd'hui sur ces métiers-là. Elles courent toute la journée. Et avec une forme de culpabilité, je vous l'ai dit, quand elle lâche un temps pour partir ailleurs. Donc comment on prend en compte aussi le rythme des agents dans ce cadre-là ? Donc on a besoin de partager ces questions. Donc simplement, sur le décret, l'ADSEM dans ses trois fonctions, je vais insister sur le mot « appartiennent hein, » du deuxième paragraphe. Les ADSEM appartiennent à la communauté, c'est une révolution culturelle. C'est-à-dire dans le décret 92 et ceux d'avant, les ADSEM étaient membres, participent à la communauté. Le fait d'appartenir dit bien qu'on est des professionnels de l'école à part entière. Et on sort de cette espèce de transparence des agents qu'on a connue ici ou là, mais qui n'ont pas été associés à des réflexions. Et comme l'inspection générale l'a très bien rappelé, c'est-à-dire la nécessité qu'elles soient en compréhension de tout ce qui se joue dans le cadre de l'école maternelle. Et plus loin, on verra pédagogiquement aussi, y compris sur les démarches, sur les programmes, etc. De fait, elles appartiennent. Mais vous voyez aussi que 4 fois, il est écrit « ils peuvent ». Et ça, moi, ça m'interroge. Ils peuvent, ça veut dire que d'une commune à l'autre, le métier d'ADSEM n'est pas le même. C'est-à-dire que vous avez des ADSEM qui peuvent faire le périscolaire, accompagner la pause méridienne, qui peuvent encadrer les temps d'activité périéducative et donc avec des logiques de formation derrière, et d'autres qui ne font pas. Ils peuvent accompagner des élèves à besoins éducatifs particuliers, d'autres ne le font pas, etc. Et je vais même plus loin. moi qui encadre beaucoup de formations d'ATSEM au CNFPT ou dans des réflexions type conférences et autres, elles me disent souvent, on n'exerce pas le même métier d'une commune à l'autre, d'une école à l'autre, d'un enseignant à l'autre. Vous le savez. Il y a un ATSEM qui a travaillé 15 ans avec un enseignant qui est parti en retraite, qui d'un coup va arriver un nouvel enseignant frais moulu, sorti de l'ESPE, elle me dit, c'est plus le même métier. Je suis obligé de reformater tout mon disque dur, là. Et comment on est en compréhension et en prévention de cela, de ce nouvel accompagnement? Donc, c'est des questions fortes. Bon, vous voyez bien, des cultures d'école, des cultures métiers, etc. Je déroule assez vite parce qu'on aura un temps d'échange qui nous permettra peut-être d'approfondir un certain nombre d'éléments. Sur la manière dont on a identifié, il y a 15 ans maintenant, pour illustrer un peu le décret qui dit des choses mais qui n'en dit pas assez, j'avais travaillé avec une équipe de Nantes donc sur cette approche qui permettait de clarifier trois fonctions. J'insiste sur la dimension de la fonction d'aide pédagogique ou d'assistance. Je vous mets en garde sur le fait que ça existe encore, quand je me promène là dans différents territoires de France, certains parlent d'une fonction pédagogique de l'ATSEM. Là, je reprends ma casquette d'inspecteur maternel. Il y a une dérive à laisser penser qu'elles aient une fonction pédagogique. On est bien dans l'assistance pédagogique, dans l'aide pédagogique, mais c'est pourquoi c'est écrit noir sur blanc, sous la responsabilité de l'enseignant. Et je reviendrai sur ces dérives, parce que parfois, quand certains enseignants ont laissé la place, parce que dépassés, moi j'ai beaucoup vécu en milieu rural, où quand on a petit, moyen, grand, section CP et CE1, l'enseignante est tentée de dire à l'ATSEM, tu prends les petits et les moyens dans la salle de jeu et tu fais ce que tu veux avec les cerceaux. Non, c'est pas, je dis aux ATSEM, ce n'est pas votre travail, ce n'est pas votre métier que d'accepter de faire ce que vous voulez avec les cerceaux dans la classe. Et en même temps, ça participe d'une forme de valorisation de l'ATSEM qui dit, ah ben on fait confiance, mais elle joue à la maîtresse. Elle n'est pas la maîtresse. Je suis assez cash dans ce que je dis par rapport à ça, mais l'expérience nous prouve que ces dérives-là font des dégâts considérables quand des enseignants ont laissé cette place-là. Bon, j'y reviendrai. Donc on est bien dans l'aide pédagogique, dans l'assistance, et non pas dans la fonction pédagogique. Après, je ne détaille pas, vous voyez, la fonction éducative et la responsabilité de l'entretien de la classe, etc., tout ce qui est lié à la bobologie, à l'accompagnement de l'enfant dans son autonomie du corps, etc. De fait, ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, puisque voilà, je m'adresse à des cadres de l'éducation qui vont accompagner ces questions-là, c'est de faire part d'un certain nombre de constats, de récurrences que j'ai partagées avec des inspecteurs de mon territoire et avec l'ANDEV au niveau national, et aussi dans le cadre des formations que j'ai pu encadrer. Donc, j'en ai identifié quelques-uns. Je vais d'abord parler du mal-être des ATSEM, au service de qui ? Vous verrez, j'ai accompagné une réflexion sur la ville de Cholet il y a 2-3 ans à l'occasion de la construction d'une charte des ATSEM que je les ai amenés à transformer en charte des collaborations ATSEM-enseignants. J'y reviendrai. Mais cette question-là, ce jour-là, j'ai découvert que la représentation que pouvaient avoir des enseignants et directeurs et des ATSEM de leur côté de ce qu'est la fonction d'ATSEM était complètement différente. Et ça, c'est un angle d'attaque qui est intéressant d'appréhender en formation commune. Après, bon, les revendications des uns et des autres, j'y reviendrai. Les confusions que j'ai commencé à aborder, tout particulièrement quand il y a des faiblesses de l'éducation nationale qui parfois sont exploitées par le monde des ATSEM. Et puis, je terminerai sur la question du tuteur de langage, parce que vous l'avez évoqué aussi avec l'inspection générale, l'enjeu de l'accompagnement du langage de l'enfant, priorité de l'école maternelle, c'est l'affaire de tous. Je me souviens qu'avec Vivienne Bouys, on avait écrit à une époque, quand j'étais conseiller pédagogique, c'était en 2002, le livret d'accompagnement des programmes de 2002, vous savez, le livret rose, là, où c'est la première fois qu'on parlait des ATSEM, autres tuteurs de langage. Vous voyez, 2002, ça commence à faire un peu de temps, mais c'est aussi la première fois que dans un document officiel de l'éducation nationale, le mot ATSEM était cité. Pour ça, je vous redis qu'on part de loin, mais on peut se réjouir du fait que ce sujet avance à grands pas maintenant. Alors, je vais vous présenter deux petits diapos. Quand j'ai accompagné le groupe d'enseignants et d'ATSEM de Cholet, Donc c'était une phase de diagnostic hein, avant qu'ils entrent dans l'idée de l'écriture d'une charte. C'était, on a posé les difficultés, les obstacles récurrents, mais je suis parti de cette entrée-là. Hein, les adsènes dans une salle, les enseignants de l'autre, vous allez identifier en verbe d'action tout ce que fait l'adsène dans une journée de classe, tout simplement. Et là, bon voilà, ils nous sortent, là c'est le groupe enseignant, vous voyez, la récurrence des mots apparaît de plus en plus gros, hein, accompagner, seconder, épauler, encadrer, aider. Le groupe ADSEM, même question, dans un espace différencié. Et l'analyse de ce travail nous montre que l'approche est divergente. C'est-à-dire très clairement, pour les enseignants, les ADSEM sont d'abord là pour les aider eux, puis pour aider l'enfant. Et pour les ADSEM, elles sont d'abord là pour aider l'enfant, pour l'éduquer, et en troisième, pour apporter une aide à l'enseignant. C'est-à-dire cette entrée-là, elle m'est apparue fondamentale dans le travail que je mène aujourd'hui au quotidien sur ces questions-là. Oui, il est normal que chacun attende, et les enseignants en particulier, une approche centrée sur l'aide pédagogique, parce que l'enseignant dit tout seul, je ne peux pas. Et j'ai besoin de l'ADSEM pour m'aider, y compris, on le verra. Et c'est ce qui fait tension quand on compte un atelier ADSEM, une activité avec un groupe d'enfants. Et là, les ADSEM sont en légitime demande de précision, de questions très fortes. J'y reviendrai tout à l'heure. Et de fait, les ADSEM ont reconnu avec le CAP, avec le concours sur titre, etc., qu'elles sont devenues des agents éducants. Donc, elles se considèrent comme des professionnels de l'éducation de l'enfant avant d'être des professionnels au service des enseignants. Mais vous savez, ça renvoie aussi à une espèce de connotation historique de la femme de service qui était au service du maître. Et quand j'ai écrit le premier ouvrage en 2008, il y a des ADSEM qui témoignaient qu'elles étaient au service du maître, de la directrice d'école, qu'elles faisaient le ménage de la directrice dans le logement de fonction, que j'ai connu à Caen, il n'y a pas si longtemps, une ADSEM qui devait ouvrir le portail du directeur quand il arrivait avec sa voiture, le café ayant coulé, mais ça fait à peine 5 ans. Et il y a un moment, quand on a des espèces de relents, c'est pas caricatural, c'est des faits qui laisse penser que les ADSEM préféraient être au service des enfants que du monde enseignant. Bon, il y en aurait plein d'exemples à donner comme ça. Donc de fait, comment on sort de cela? C'est qu'on accepte l'idée qu'effectivement, les ADSEM aujourd'hui ont bien une double mission et qu'elles sont à la fois sur l'ensemble de ces tâches-là, au service de l'élève, des familles, de l'institution scolaire, et aussi des enseignants, bien entendu. Donc c'est quelque chose qui se parle, qui se travaille en formation, et qu'il est nécessaire donc de faire avancer, parce que ça renvoie à la question être au service de qui, et les ADSEM commencent à réaliser qu'elles peuvent être un peu trop happées sur une aide à l'enseignant, à un moment où l'enseignant pourrait faire certaines tâches tout seul, alors que s'il était en CP, et quand il n'y a pas d'ADSEM, c'est lui qui les aurait faites. Donc, ce n'est pas simple à traiter. Mais en même temps, ça interroge. Donc, de fait, voilà, quand je dis que les enseignants acceptent aussi de faire le deuil d'ADSEM à temps plein dans la classe, parce que vous devez avoir conscience et être relais de ça, que les ADSEM ont de multiples tâches nouvelles qui ont émergé depuis la réforme des rythmes scolaires, et même depuis qu'on est revenu à 4 jours dans certaines collectivités, parce que ces tâches ont perduré. Vous savez, avec le plan mercredi, etc. De fait, voilà, c'est important de rappeler que dans les revendications, les enseignants réclament tous aujourd'hui un ADSEM par classe, mettent une pression considérable. Là, à 6 mois des élections municipales, je vous assure que les maires sont sous pression sur cette question-là, là où ça n'existe pas, et qui plus est, là où il y avait un ADSEM par classe, et que les maires ont décidé d'être en retrait et de supprimer des moyens parce qu'ils ne peuvent plus assurer les finances de la commune. De fait, ça pose question. Ça pose question, ça doit être clarifié, y compris sur la question des remplacements. Les enseignants réclament au quotidien que dès qu'un ADSEM est absent, l'ADSEM puisse être remplacé. Moi, je vous parlerai tout à l'heure, effectivement, de la charte de la ville d'Orvault que j'ai construite avec l'éducation nationale. On a clarifié le fait que, dans la mesure où le maire de la ville met des moyens considérables, c'est-à-dire un ADSEM par classe, dans chaque école, ben, l'exigence des enseignants du remplacement immédiat n'est pas tenable. C'est une condition. C'est-à-dire, ou on vous enlève un ATSEM par école, et en ce cas-là, on est capable d'avoir ce qu'on appelle, nous, un délai de carence, c'est-à-dire un délai de carence à l'heure, absence remplacée immédiatement. Mais si vous avez un ATSEM par classe, non. Vous gérez, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec votre directeur d'école, la répartition des moyens là où les priorités sont identifiées. Cette revendication-là, elle met une pression, et je le dis, moi, en tant que directeur territorial, on a besoin des inspecteurs pour nous accompagner sur ces sujets-là, parce que ce n'est pas tenable. Donc voilà, c'est une réalité. Maintenant, les revendications des ATSEM, vous le savez, c'est un besoin de reconnaissance, de considération, et de sortir de cette espèce de bulle du personnel invisible de l'école dont on ne parle jamais, y compris à la fin, à la fête de l'école, au mois de juin, quand un enseignant monte sur le podium et qui remercie tous les enseignants pour le spectacle, et que là, sur les blocs d'ATSEM, mais si vous voyez comment ça fuse, quoi. C'est-à-dire, 10 ATSEM blessés, on va mettre 20 ans pour reconstruire encore, on ne parle même pas de nous alors qu'on a fait tout le travail de l'ombre. C'est-à-dire, il faut que les enseignants, à un moment, regardent ça en face, qui prennent en conscience du fait que c'est blessant parce que voilà, ces professionnels ont besoin aussi d'être identifiés comme professionnels à part entière. Est-ce qu'il est normal qu'encore aujourd'hui en France, quand on rentre dans une école, il y ait le nom de l'enseignant affiché sur les portes et pas les noms des ATSEM? Pourquoi ces professionnels sont aussi absents et transparents? Donc la considération, elle passe par des petits détails aussi simples que ça. Ce n'est pas à vous que je dois le dire, mais comment vous pouvez être les relais quand vous allez dans les écoles? Les confusions dont j'ai parlé, les confusions, elles sont fortes. Donc vous avez bien compris, ça passe d'abord par une clarification des rôles et des métiers de chacun. En appui sur les référentiels métiers, comment on clarifie le rôle de l'enseignant, de l'ATSEM, du directeur, de l'AESH? C'est-à-dire que ces professionnels-là ont besoin d'être en compréhension hein, de qui fait quoi. Et en sortant, j'ai envie de dire ça, je l'évoque assez souvent, de ce que certains psychologues appellent l'idéologie maternelle spontanée. C'est-à-dire, il faut clarifier les missions des enseignants pour que les ATSEM ne se sentent pas en droit de dire « Mais moi qui ai 50 ans, qui ai eu 3 enfants, qu'est-ce qu'elle connaît cette petite de 25 ans qui n'a même pas de môme ?» Il y a quelque chose de cette représentation-là parfois, en maternelle. Ce que j'appelle l'idéologie maternelle spontanée, vous devez travailler cette question-là. Ce n'est pas parce qu'on est mère de famille de 3 enfants qu'on en sait plus qu'une jeune enseignante qui a 25 ans. Mais cette représentation-là est tenace quand il est question d'accompagner l'enfant. Et d'autant plus, j'ai envie de vous dire, soyez très vigilants par rapport à ça, que les ATSEM ont accès à des formations sur le sommeil de l'enfant, sur ses rythmes, sur les 12 violences. Et quand elle rentre en classe après une semaine de formation au CNFPT, et qu'elle voit qu'on continue à réveiller les enfants à la sieste. Elle dit, c'est pas possible. En formation, on nous a dit, il ne faut jamais réveiller un enfant qui dort. Et quand on nous dit, on doit maintenir l'enfant qui ne dort pas jusqu'à la récré, parce que moi, je ne peux pas m'en occuper avant, ça fait violence aussi. Et le doudou qui est supprimé à l'entrée de la porte de l'école, elles reviennent de formation et disent, mais en fait, les enseignants sont moins bien formés que nous sur ces questions. Alors on peut leur dire, bah oui, c'est plus facile, machin, on essaie de s'en sortir. Mais c'est des questions fortes. C'est-à-dire, ça laisse penser qu'elle pourrait en savoir plus que certains enseignants de maternelle. Bon, moi, de là où je viens, je sais que c'est très compliqué pour vous, que la formation maternelle a été certainement le parent pauvre à un moment, et qu'on est tous des militants à un moment de cette question-là. Mais il faut vraiment être clair sur ces sujets. Non, l'ATSEM ne peut pas expliquer à l'enseignant comment il faut faire sur ces questions-là. Donc ça renvoie aussi à autre obstacle, des confusions. C'est un partage un peu manichéen parfois. L'un s'occuperait de l'intelligence, l'autre du corps. Bon, on a beaucoup évoqué déjà l'histoire d'un partage raisonné intelligent des territoires où les ATSEM sont un peu sur le registre du pédagogique parfois, comme les enseignants ne peuvent pas se désintéresser de la question du corps, du sommeil, de l'accompagnement, de l'autonomie du corps de l'enfant. Autre élément de confusion, la relation aux familles, vous l'avez évoqué avec l'inspection générale. Bien sûr, la question du parent le matin, moi j'essaie souvent, c'est caricatural, mais de dire aux ATSEM en formation, si c'est une question qui est centrée sur l'élève, c'est l'enseignant, vous renvoyez sur lui. Une question centrée sur l'enfant, pourquoi pas? Mais c'est des sujets forts aussi de formation, où on est dans l'exclusion, c'est-à-dire il y a les ATSEM qui ont aujourd'hui interdiction en France de s'adresser à des parents d'élèves. C'est une interdiction formelle posée par le cadre des enseignants, et d'autres qui sont dans un laisser-faire total, où elles peuvent répondre à des parents d'élèves sur n'importe quel sujet, y compris sur des questions d'apprentissage scolaire. Moi, je pense que si on a là un vrai sujet d'accompagnement en formation, parce qu'on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Après, vous l'avez compris, hein, quand j'ai parlé des faiblesses de l'éducation nationale, je suis en train aujourd'hui de travailler un petit accompagnement de médiation avec un enseignant, avec l'inspecteur de ma circonscription, parce que c'est l'ATSEM qui gère tout, y compris la maîtrise du groupe classe sur le plan de l'autorité, des règles de vie, etc. Et l'enseignant étant assis dans un coin de la salle est dépassé. C'est-à-dire quand on a... C'est extrême, mais ça existe. C'est comment on se met ensemble tout de suite en réaction pour ne pas laisser la place à ce type de dérive. Donc voilà, ces faiblesses-là, on ne peut pas les nier. Donc il faut oser les affronter, j'ai envie de dire. Et c'est aussi un sujet de formation entre cadres, peut-être. Et j'invite les inspecteurs qui sont là à s'intéresser aux formations qui sont mises en place dans le cadre des réseaux des écoles de services publics. Et on traite ces questions-là. C'est-à-dire qu'on réunit des inspecteurs éducation nationale et des cadres de la fonction publique, des directeurs de l'éducation et autres, sur des formations communes à l'INSET de Nancy tous les ans, sur des sujets justement de partage, hein, de coopération éducation nationale, territoire. Et je me souviens que la dernière fois, on a pu aborder ces questions-là, justement. Voilà. Donc, on pourrait développer d'autres sujets majeurs de confusion sur les temps de récréation, la sieste, qui, quand, où, interdit ou pas. Je vous laisse peut-être revenir sur ces questions-là dans le cadre de l'échange. Sur le temps qui m'est imparti, je fais des choix. Et il faut qu'on aille assez vite. L'ATSEM a un champ d'interaction langagière, bien sûr. On ne peut plus nier aujourd'hui que c'est un élément fort de professionnalisation. Donc, il faut, par rapport à ça, une prise de conscience partagée. C'est-à-dire, les collectivités, je vous l'assure, sont de plus en plus enclins à identifier que les professionnels de la petite enfance, que sont les ATSEM, comme les EJE, alors moi, j'ai la chance de gérer dans ma direction générale et les structures petite enfance, donc les crèches, multi-accueil, les écoles, etc. Et je vois les passerelles qui existent aujourd'hui entre ces mondes-là. Tout particulièrement sur cette entrée accompagnement du langage de l'enfant. Donc quand on parle du parler professionnel, voilà, d'une forme d'acculturation de l'ATSEM à ce que sont les enjeux de langage en production, en réception, etc., c'est fondamental. Alors oui, pourquoi ? Parce que tout simplement, l'ATSEM, peut-être plus que les enseignants encore, ont la chance de pouvoir être en relation duelle plus souvent dans une journée avec les enfants, au moment de l'accompagnement au repas, aux toilettes, quand elles les habillent, quand elles les couchent, etc. Et de fait, partenaires de cette relation duelle, elles sont sur une dynamique de situation langagière vraie, en contexte des situations non artificielles et inventées. Donc la question... Vous voyez, j'ai assisté à une formation il n'y a pas longtemps des ATSEM où on leur demandait sur le passage aux toilettes de verbaliser en verbe d'action tout ce qu'elles font. Voilà, je vais t'aider à dégrafer le bouton du pantalon, on va relever les manches, on va tirer la chasse d'eau, on va dérouler le sopalin. Et être un être parlant, c'est entendre parler. Et ça leur ouvre les yeux en disant, mais oui, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt ? Elles sont tout à fait à même d'être en compréhension de ces enjeux-là. Je redis, ce qui n'est pas l'affaire que les enseignants, et depuis les programmes de 2002, on l'avait déjà identifié, mais on a un vrai besoin d'accompagnement en formation sur ces sujets-là. Ce que je regrette, moi, c'est que trop peu souvent, les enseignants sont en capacité d'accompagner leurs ATSEM ou les ATSEM de l'équipe sur ces questions-là. C'est pour ça que je vous dirais tout à l'heure que parfois, des concertations de cycle sur le langage, ça peut être un très bon levier que d'inviter les ATSEM sur un temps donné, quand on va parler justement des tuteurs de langage. Après, on leur dit, voilà, maintenant, on va faire des progressions, c'est plus votre sujet, vous allez vaquer à d'autres occupations. Mais pensez à les associer à chaque moment qui peut avoir une incidence sur la professionnalisation, ça me paraît un enjeu fondamental. Alors, j'en viens à mes 5 leviers prioritaires. Excusez-moi, est-ce que je faut que je m'hydrate. Alors, le choix que j'ai pu opérer, effectivement, parce qu'il y en a d'autres, mais c'est des leviers que j'ai pu éprouver comme étant efficients, je vous l'ai dit, dans le cadre de mes différentes démarches sur le territoire national. D'abord, l'acculturation des ATSEM, pour moi, c'est un préalable incontournable Il n'est plus envisageable que des ATSEM travaillent dans l'environnement de l'école maternelle sans le connaître de A à Z. C'est-à-dire qu'au-delà du fonctionnement de l'école maternelle, vous savez, en formation, on leur explique le fonctionnement pyramidal de l'éducation nationale. Du ministre à la classe, en passant par le recteur, le DAZN, l'IEN, il est qui, le CPC, le RSH, c'est qui tous ces gens-là qui viennent chez nous, on ne les connaît pas, on ne nous explique jamais. Et à un moment, c'est aussi aller sur les finalités et les enjeux, bien entendu. On l'a déjà évoqué. Mais pour moi, le levier prioritaire aujourd'hui, c'est la compréhension des 5 domaines des programmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'ATSEM en France qui sont capables en formation, même si elles imaginent ce que font les enfants dans une journée, d'identifier ce que sont les 5 domaines prioritaires du programme de la maternelle. Mais c'est plus possible aujourd'hui en 2020. Et on ne peut pas faire l'impasse sur cette question-là. Comment est à même de servir un projet pour une école maternelle qui travaille ces questions-là sans qu'on en ait été informé, au moins voilà, qu'on ait pu appréhender dans des partages avec les enseignants, etc. Donc être en compréhension pour être mieux à même de servir ce projet, c'est le préalable. Et Gilles Tudal, qui est dans la salle IEN maternelle à Nantes avec moi, quand on a initié la charte des collaborations ATSEM de la ville d'Orvault, je lui avais dit, moi je fais un topo aux ATSEM sur toute la partie historique de leur métier, les enjeux, etc. Et tu peux venir leur présenter ce qu'est l'école maternelle aujourd'hui, les enjeux des programmes, etc. Mais ça a été hyper bien reçu. Je veux dire, soyez un peu proactifs. Proposez d'ouvrir ces portes-là dans les collectivités où vous allez, avec vos conseillers pédagogiques, les formateurs de l'ESPE, qui vous voulez, aller former les ATSEM sur ces questions. Je vous garantis que c'est un levier qui permet que ça décolle et qui les amène à comprendre. Alors, je fais une petite diversion. Et je parle en plus de modalités pédagogiques. Tout à l'heure, l'inspecteur général disait l'histoire du sable, là, en Iran, ou je ne sais plus où. Voilà. Moi, ça me rappelle une ATSEM qui m'a dit, en formation, mais vous vous rendez compte, l'enseignante, elle me demande de remplir des bouteilles à la petite cuillère avec du sable, quoi, ou avec des lentilles, ou avec de l'eau. Ils s'en foutent partout, les petits, et c'est pour me donner du boulot supplémentaire ou quoi. Mais il manque juste le décodeur. Si l'enseignant est capable d'expliciter que le fait de verser du sable avec la petite cuillère, ça affine la motricité du poignet et ça prépare à l'écriture cursive, c'est fini. L'enseignant, l'ATSEM n'est plus dans des espèces de fantasmes de représentation qu'on lui donne du boulot supplémentaire. Pourquoi on n'explicite pas ça alors que depuis 20 ans, on dit en maternelle il faut sortir de la pédagogie de l'invisible avec les enfants, avec les ATSEM aussi. Voilà mon message. C'est que l'enseignant doit être cet explicitant de tout ce qu'il propose pour que l'ATSEM soit en compréhension, y compris sur les démarches pédagogiques. Alors, de fait, voilà. On a un chantier sur cette question de l'acculturation. Pour moi, c'est un préalable. C'est-à-dire que toutes les ASEM de France aient accès à cette compréhension des enjeux, des modalités. Alors, vous voyez, quand on rebalaye les grands enjeux des programmes de 2015, est-ce que tout le monde est au clair? Qu'est-ce que ça veut dire devenir élève de façon progressive? Est-ce que c'est partagé en équipe? Une école bienveillante. Alors voilà, on parlait de bientraitance, de le contraire de la malveillance ou de la maltraitance. Qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Les ATSEM n'ont pas du tout le même regard sur ce qu'est la bienveillance et une école qui s'adapte avec un dialogue constructif. Voilà, autant de leviers qui nécessitent, à mon sens, d'être partagés en formation. Deuxième levier, bien entendu, c'est les formations. Je crois que le séminaire a pour objet essentiel de vous permettre de développer des formations pluriprofessionnelles. J'ai lu avec grande attention l'impulsion du ministère sur ce sujet. Alors bien sûr, on ne peut pas faire l'économie des formations spécifiques à chaque métier. Il y a des formations d'enseignants pour lesquelles les ATSEM n'ont pas à être présents. On est bien d'accord, et y compris à l'inverse. Mais les formations pluriprofessionnelles, aujourd'hui, c'est devenu le levier majeur d'une compréhension partagée et surtout, comme a dit Madame Carotti, de se connaître. Se connaître pour se reconnaître. Et vous allez voir que quand vous les faites travailler ensemble sur ces sujets-là, forcément que ça booste un peu la collaboration. On a un recul aujourd'hui d'à peu près une quinzaine d'années sur les formations communes. J'ai expérimenté, quand j'étais UN, moi, dans l'Académie de Nantes, bien des possibilités d'ouvrir les animations pédagogiques aux ATSEM, de faire des temps où même on avait poussé le bouchon jusqu'à dire sur une formation de 2 semaines, l'enseignant de maternelle ne pouvait s'inscrire à la formation que si l'ATSEM venait avec lui. Sinon, il ne venait pas à la formation. Vous voyez, quand on pose cette condition avec les collectivités, eh ben, on avait rempli le stage, j'avais 20 enseignants, 20 ATSEM. Et 20 ATSEM qui n'étaient là que sur 3 jours, sur les 15 jours de stage. Elles étaient là sur les 3 jours, on a parlé connaissance de l'enfant, on a parlé collaboration et on a parlé de scolarisation des tout-petits. Mais pour le reste, voilà, les enseignants sont formés tout seuls, bien entendu. Quelques exemples de questions à partager. Alors bien sûr, les formations spécifiques, hein, je passe. Et sur les formations pluriprofessionnelles, bien sûr que la question du parler professionnel, langage, on a parlé récemment de d'étayage. Les ATSEM sont en compréhension de cette question-là. C'est une vraie question d'enseignant. Comment former mon ATSEM à aider l'enfant sans faire à sa place? Donc quand on parle d'étayage pédagogique, aide-moi à faire tout seul, les ATSEM ont accès à des modules au CNFPT aujourd'hui très efficients sur cette question-là. Mais il ne serait pas inutile que les enseignants soient eux-mêmes en situation de les former au quotidien sur ces questions. La question de la différenciation pédagogique et autres. Vous savez, il ne faut pas avoir peur, je le dis souvent, de penser que les ATSEM ne vont pas être en compréhension de ces questions-là. En contexte, elles comprennent très très bien ces choses-là et parfois on a été un peu frileux en disant mais est-ce que c'est accessible au niveau des ATSEM? Oui. Et vous verrez comment elles sont en capacité à rentrer dans ces questions-là, bien entendu, même si ce sont des professionnels de catégorie C. Aménagement des espaces, bien sûr, scolarisation des moins de 3 ans. Et j'ai ajouté aussi animation conduite d'atelier, parce que je vais vous montrer un outil qui fait que quand on confie des enfants à l'ATSEM dans le cadre d'un atelier, là, des vraies questions se posent. Alors là, à titre d'illustration, vous voyez ce qui s'est déroulé sur la ville de Chambéry. Il y en a plein d'exemples comme ça. Vous êtes vous-même en initiative sur ces questions-là. Là, il y avait une journée culture commune autour de l'accueil des moins de 3 ans. Toutes les ATSEM de la ville de Chambéry avec tous les enseignants. Voilà, clarifier les rôles, les besoins fondamentaux. Bon, ça se met en place. C'est assez facilitant. Et pour autant, ça n'existe pas partout. Et effectivement, je pense qu'en sortant de cette journée, vous allez certainement pouvoir avoir les outils, y compris dans la relation aux collectivités, pour avoir capacité à impulser ce type d'initiative. Alors, je vous ai dit, en formation croisée enseignant ATSEM, ça date justement du stage dont j'avais parlé, où les enseignants étaient obligés de venir avec leur ATSEM. Parmi les questions fortes qui ont été identifiées au départ, c'est les ATSEM disaient, moi, je veux bien qu'on me confie un groupe d'enfants. Mais je ne suis pas du tout à l'aise quand je suis parti avec les 8 ou 10, là, parce que je ne sais pas exactement si c'est moi qui dois dire la consigne. Qu'est-ce que je fais si un enfant n'y arrive pas? Qu'est-ce que je fais quand l'enfant a fini au bout de 2 minutes, alors que l'enseignant il m'a dit que l'atelier a duré 20 minutes, etc., etc. Autant de questions très fortes qu'ont amené les acteurs de l'époque à construire cet outil qui n'a absolument pas valeur de modèle, mais qui est un outil qui, construit en situation, a énormément de sens derrière. Parce qu'effectivement, une fois qu'ils ont pu définir un avant, un pendant et un après, eh ben, ça sécurise énormément. Et pour moi, l'enjeu fondamental, c'est le pendant. C'est comment on accompagne la posture professionnelle des ATSEM qui dédramatise, relance, permet l'erreur, etc. Donc vous voyez, c'est construit par des pédagogues, mais dans des formations où les ATSEM sont en situation de comprendre ce qu'on attend d'elles et sans qu'elles puissent le deviner forcément. Hein, donc voilà, c'est autant de leviers qui me paraissent aujourd'hui des vrais leviers de progrès, quoi. Et si vous faites des formations communes, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette question-là. D'ailleurs, une question qui revient très souvent sur le sujet, c'est à quelles conditions je peux confier des enfants à un ATSEM? Et souvent, des ATSEM me disent, c'est bizarre, le jour où l'inspecteur vient dans la classe, ah ben là, j'ai pas le droit d'entrer dans l'atelier. L'enseignant me dit, ben non, je sais pas comment il va réagir l'inspecteur, donc je préfère que tu restes dans la classe avec moi. Bon, comme si on se sentait en faute. Et on a pu identifier avec des collègues, quand j'étais inspecteur, 4 critères qui étaient de dire oui, on peut confier un groupe d'enfants à l'ATSEM, mais à condition qu'on sache combien il en a et qui sont ces enfants, où ça se déroule, combien de temps ça va durer et avec qui ils sont. Donc si on sait répondre à ces quatre questions, c'est-à-dire il est dans la bibliothèque, ils sont dans la bibliothèque avec l'ADSEM, ça va durer 20 minutes parce qu'il faut une recherche sur la coccinelle, et puis voilà, et on sait qu'on revient. Et regardez le temps de sieste. Vous avez des enseignants qui sont responsables de leurs enfants quand ils sont au dortoir à 14 heures. On sait où ils sont, avec qui, pourquoi faire et combien de temps ça va durer. Et si on reprend ces critères-là, ça sécurise aussi les enseignants qui ont besoin parfois d'être un peu en paix avec le sujet. Maintenant, ça dit aussi que si l'ADSEM est sur cette tâche, on ne peut pas lui demander en même temps d'aller changer un enfant qui s'est souillé. Donc ça, c'est une histoire de partage d'équipe. Ce n'est pas mon ADSEM, ma classe. C'est peut-être un travail en pôle où on a un ADSEM qui est en secours pour aider l'enfant qui a besoin d'être secouru et d'autres qui sont en animation. Donc ça pense une organisation d'école aussi peut-être différente. Troisième levier fondamental, bien sûr, c'est le pilotage des continuités éducatives parce que sur ces questions-là, on a besoin de clarifier la question des responsabilités. Sur les temps de transition, alors je reprends l'exemple de la sieste, on a des enfants qui sont couchés sitôt la pause méridienne dans le dortoir par les agents de la ville, donc sous responsabilité du maire. Ces mêmes enfants qui dorment à 13h31 passent sous la responsabilité de l'éducation nationale. D'accord ? Et là, est-ce que l'enseignant sait combien il a d'enfants dans le dortoir ? Il y a un exercice incendie, qui est responsable ? Les ADSEM sont en panique avec ça. Il y a un moment, ça fait partie des choses qu'on peut clarifier. C'est-à-dire que les temps de transition, ces partages de responsabilités, y compris, vous savez bien, sur le périscolaire du matin, l'étape, etc. Donc là, on a un vrai sujet de travail aussi à partager entre institutions. Donc là, moi, j'avais identifié, hein, dans une conférence avec les ADSEM enseignants, cette diapo qui dit que, effectivement, quand un enfant peut rencontrer jusqu'à 12 adultes différents dans sa journée de classe maternelle, sa journée d'écolier, ça questionne la cohérence éducative. On ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet-là. Et y compris avec les évolutions qu'on a connues, 4 jours et demi, retour à 4 jours, on réinterroge. Et je pense que là, on a des vrais sujets de travail. Et puis dire effectivement, qu'est-ce que les enfants comprennent de tout ça, du qui fait quoi quand, qui est cet adulte qui me prend en charge maintenant et pourquoi faire et pourquoi après je passe avec celui-là. Et puis vous voyez bien que la cohérence, ça va jusqu'à l'attitude de chacun. Pourquoi avec un tel j'ai le droit de sortir les vélos et avec lui j'ai pas le droit, etc., etc. On en vient aux chartes. Alors bien entendu, c'est aussi, vous l'avez compris dans mon propos, pour moi un levier fondamental, peut-être le levier plus après les formations communes. Mais je souhaite vraiment vous dire aujourd'hui qu'un stade a été dépassé. Il faut sortir des chartes d'ADSEM. Pourquoi je milite depuis 2-3 ans là, sur la question des chartes, des collaborations ADSEM, enseignants ou enseignants ADSEM ? Parce que c'est ça qui est en jeu. C'est le travailler ensemble. Et de fait, une charte d'ADSEM, beaucoup d'enseignants ne sont pas impliqués ou concernés. C'est une charte d'ADSEM qui parfois ressemble plus à un règlement intérieur des ADSEM, donc c'est une affaire de la mairie, de la ville, c'est pas mon sujet d'enseignant. La charte des collaborations, elle a vraiment cette ambition de travailler ensemble sur la construction justement de notre professionnalité partagée. Donc bien sûr, c'est un outil co-construit entre les institutions qui donne l'impulsion au service de cette coopération et ça permet des clarifications en contexte, en situation, parce que d'une commune à l'autre, je l'ai déjà dit, ou d'un département à l'autre même, ou d'une école à l'autre, les sujets ne sont pas les mêmes. Ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est qu'effectivement, les équipes de circonscription ont besoin du secours là, des IEN maternelles sur ce sujet, et de votre expertise, et en même temps de vos équipes de formateurs de missions maternelles, etc. Parce que l'IEN maternelle, au moment du passage à l'écrit, il sécurise, hein, parce qu'il y a de l'interprétation sur certains mots et la finalisation d'une charte, des collaborations, il ne faut pas qu'elle prête à interprétation. Donc de fait, en même temps, je vais me permettre de le dire, que ce n'est pas toujours facile pour un IEN maternelle, j'en ai connu quelque chose, de rentrer dans certaines baronnies d'IEN qui doivent vous accepter de vous ouvrir la porte pour que vous puissiez les accompagner sur le sujet. Et pour autant, c'est un vrai levier fondamental. Que les IEN maternelles prennent leur place, je le dis avec franchise et voilà, parce que j'ai vu certains collègues de l'ANDEF qui m'ont dit que leur inspecteur de circonscription n'était pas forcément le meilleur levier pour accompagner la charte des collaborations et que l'IUE de maternelle n'avait pas eu les droits au chapitre, donc c'est regrettable. Sur ces chartes, alors effectivement, je me permets hein, de citer la charte des collaborations ATSEM enseignants de la ville dans laquelle j'exerce, parce que je pense qu'effectivement, on a monté d'un cran cette capacité à aller plus loin en termes de complémentarité, de cohérence, de continuité et de sens. Et elle est très efficiente aujourd'hui. C'est-à-dire, ça a énormément apaisé, j'ai envie de dire, certaines tensions d'équipe, mais aussi ça a permis d'être vraiment sur un environnement beaucoup plus qualitatif. Intérêt de l'enfant, bien-être professionnel, écrit en contexte. Et j'ai envie de vous dire, parce que c'est une réflexion aussi qu'on a entendue, je suis de ceux qui disent qu'il ne faut pas construire une charte nationale, mais qu'une charte, elle doit s'élaborer en contexte, avec les spécificités d'un territoire, et parce que aussi les effets de la démarche qui a conduit à conduire la charte et à aller jusqu'à un écrit est aussi tout aussi importante que le résultat final lui-même. C'est-à-dire d'avoir mélangé des groupes de travail enseignants ATSEM, des directeurs, les avoir fait travailler, réfléchir sur les leviers, sur les points de tension, c'est considérable. Si un jour on nous pond une charte nationale, elle ira dans les tiroirs. Et je n'y crois pas. C'est pour ça que je suis très en demande de freiner sur cette question-là. Alors, les temps de concertation dédiés, c'est mon dernier levier et je termine. C'est effectivement, vous l'avez compris, si on veut aller plus loin sur ces questions de coopération et de collaboration, il faut du temps pour se rencontrer en dehors de la présence des élèves. Donc c'est créer les conditions de la reconnaissance effective des deux métiers pour participer au conseil d'école, mais aussi plus loin, je l'ai dit, au conseil des maîtres élargi, à des réunions d'équipe éducative, les réunions de parents, les bilans, perspectives projet d'école, les directeurs et les ATSEM. Bon, on a autant de temps de concertation à imaginer qui ont déjà été éprouvés aussi, hein, et que vous retrouverez dans les propositions sur les ouvrages hein, qui traitent du sujet. Mais de fait, le vrai sujet pour vous, inspecteur, c'est de négocier avec les collectivités que je représente là aujourd'hui du temps dédié pour les ATSEM. C'est pas simple. Pour autant, j'ai envie de vous dire que c'est un progrès considérable que de constater qu'aujourd'hui en France, certaines villes ont dégagé entre 10 heures et 30 heures par année au service des directeurs d'école pour que les ATSEM soient à disposition du projet. 30 heures par an et par ATSEM, vous imaginez où on en est quand même. C'est considérable. Alors il y a 6 heures de conseil d'école, certes, mais derrière, il reste du temps pour les associer. Ça veut dire que c'est du temps qu'elles ne font pas sur l'été, sur les grands ménages ou sur les centres de loisirs ou autres. C'est du temps qui vous est dédié, éducation nationale, pour renforcer la concertation, etc. Moi, je pense qu'effectivement, là, on a un levier considérable. Un exemple, bon, ville d'Orvault. Moi, j'ai demandé à mes services de mettre en place un système de fiches navettes avec les directeurs d'école. Donc, mon responsable vie scolaire, il envoie ça dans le guide des directeurs d'école en début d'année. Le directeur, il inscrit, demande pour madame machin, madame un tel, d'une heure, pourquoi concertation avec les enseignants, c'est coché, ou équipe éducative, ou réunion de rentrée, ou etc. Et puis, c'est validé par le DGA, on signe, c'est une lettre retour. Et on décompte des 30 heures qu'on leur attribue pour chacun. Et à la fin, on fait une balance, il reste combien de temps ? C'est simple, efficace, et rapprochez-vous des collègues directeurs de l'éducation et vous allez voir que vous serez écoutés. Donc, tout ça pour dire que, pour conclure, le travailler ensemble entre enseignants et ATSEM, effectivement, vous l'avez compris dans mon propos, c'est d'abord travailler ensemble entre cadres des institutions. C'est-à-dire ce rapprochement entre les inspecteurs de circonscription, les inspecteurs maternels et les directeurs de l'éducation ou les responsables de services sur les plus petites collectivités et autres est fondamental. C'est-à-dire l'impulsion, elle se donne là et quelque part, j'ai envie de dire, elle est modélisante. On ne peut pas attendre de coopération de terrain, des coopérations qu'on n'a pas été, nous, en capacité à mettre en œuvre. Donc moi, j'interroge simplement ça et je dis que on a aussi des marges de progrès sur ces questions-là. Je me permets de vous dire que, puisque j'ai évoqué, quand on m'a présenté, on a évoqué l'ouvrage de 2008 que j'avais écrit seul à l'époque hein, sur les collaborations de ces enseignants. J'ai le plaisir de vous annoncer que cet ouvrage de Canopée a été coécrit avec une inspectrice de Carcassonne, qui est dans la salle, je crois, Claudie, et avec une formatrice de l'ESPE de Toulouse ou de Montpellier. Et de fait, voilà, on a réactualisé les nouveaux éléments de décret, de formation, etc. Et on y propose des outils plutôt efficients et avec une préface de Viviane Bouys qui est toujours aussi pertinente. Donc, qui vous permettra peut-être d'avoir des, voilà, une possibilité d'accompagnement pour aller plus loin sur les sujets qu'on traite aujourd'hui. Pour conclure, je vais simplement vous dire qu'effectivement, vous avez compris mon propos un peu engagé sur le sujet et j'espère que ça contribue justement à éclairer cette réflexion à partir d'éléments stratégiques qui, vous l'avez bien compris, peuvent être mis en lumière dans le cadre de vos plans de formation. Et malgré ce temps court, voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse place à l'échange.